Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous parler de la Coupe du Monde parce que le football n'est pas d'abord le sujet de cette émission et puis je n'ai aucune compétence pour parler de ce sport. Mais par contre, dans le cadre de notre sujet éditorial, on peut parler de la construction de ce stade et de ce qui a été dit depuis des semaines, on peut dire même peut-être des mois, sur les morts qui ont été la conséquence de la construction des stades et qui ont ému une grande part des foules sentimentales européennes. Bon, on peut, à juste titre d'ailleurs, être ému par les chiffres qui ont été annoncés de 6 000 morts pour construire les stades, ce qui paraît effectivement un chiffre énorme. Et on comprend bien qu'on puisse être ému. Alors, on a parlé de cela déjà. Bon, c'est le Guardian qui avait donné ce chiffre, sans donner les sources et de la manière dont il était étayé. Le Point a fait une enquête sur place qui apparemment ne corroborerait pas ce que disait le Guardian, on ne savait pas très bien s'il s'agissait de la mortalité des populations immigrées qui travaillent dans les Émirats. Enfin bon, tout ça était assez confus. Alors, par contre, évidemment, je n'ai pas fait d'enquête personnelle, ni sur place, ni on peut dire dans les sociétés constructrices des stades, mais cela me permet quand même de faire quelques réflexions sur ce sujet. Alors, d'abord, ce n'est pas un sujet négligeable, puisque le bâtiment est un des secteurs d'activité humaine dans lequel, effectivement, malheureusement, il y a le plus d'accidents et des accidents et également avec un taux de mortalité important. Pourtant, les réglementations aujourd'hui sont de plus en plus strictes, avec juste raison d'ailleurs, à la fois pour les protections des ouvriers, à la fois pour les protections des machines, pour les ouvrages en construction également. En amont, pour que ces ouvrages ne soient pas des sources de danger et d'effondrement, donc de différents accès. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ces accidents du bâtiment, on peut dire, ils sont divisés en trois. Il y a les accidents qui sont liés aux efforts eux-mêmes. Alors là, on sait qu'il y a eu quand même de très grandes améliorations. Les améliorations, elles ont été faites au cours du XXe siècle et par la mécanisation, c'est-à-dire les tâches les plus pénibles, les terrassiers qui travaillaient courbés avec des outils manuels, ont été remplacés par des machines de plus en plus performantes. Et effectivement, il y a aussi des accidents qui sont liés aux machines et à leur emploi. Alors, il y a effectivement des accidents physiques, mais il y a aussi des morts qui sont liées à l'utilisation de machines. Alors, c'est les machines de levage, c'est des outils également, les outils divers qui sont liés au bâtiment. Et on peut dire que aussi la dernière cause, et qui n'est pas la moindre, ce sont les chutes. Alors il est évident que les bâtiments hauts ont plus de, hélas, de possibilités de chute que des bâtiments qui vont être, on peut dire, au niveau du sol, et on sait que les garde-corps, etc., les réglementations ont augmenté.
Couldn't wipe this black off if I tried.
va quitter le problème de la construction des stades pour être sur quelque chose qui est plus près de nous, mais dont on parle beaucoup dans les gazettes et à la télévision, qui est les chantiers de rénovation thermique. Alors ça a été effectivement aussi le sujet de manifestations plus ou moins violentes, en tout cas perturbantes, on va dire. Par des jeunes écologistes radicaux, avec une dernière rénovation et, de manière assez, me paraît totalement surprenante, leur préoccupation et leur combat, c'est la rénovation des bâtiments. Apparemment, ils ne connaissent pas grand-chose parce que c'est un sujet qui est quand même un sujet complexe. Et j'en avais déjà parlé dans d'autres émissions, mais je vais revenir sur ce sujet parce que ça me semble quelque chose à la fois d'actualité et puis surtout, je pense, assez ridicule dans son expression, et il faut le replacer dans un contexte économique et dans un contexte économique aussi politique aujourd'hui avec la crise de l'énergie. Alors est-ce que vraiment notre sort et notre sort énergétique dépend de la rénovation des bâtiments? Je pense qu'on a vraiment exagéré sur le sujet. Et vous savez, quand on exagère sur des sujets, il y a toujours des intérêts derrière. Et les intérêts dans cette histoire, ils sont flagrants, ils sont depuis longtemps les intérêts des industriels. Des industriels comme Saint-Gobain, qui a fait un lobbying très très efficace et très important auprès des élus pour vendre les produits d'isolation. Et puis il y a aussi des entreprises, des organisations qui sont, on peut dire, plus ou moins honnête, puisque on voit aussi beaucoup de débordements, beaucoup sur les réseaux sociaux, dans des reportages sur les abus qui sont liés à ces problèmes d'isolation. Alors, on a la réglementation qui est renforcée de plus en plus. On a à la fois les écologistes qui nous parlent de passoires thermiques. C'est un mot qui me paraît totalement invraisemblable parce que on a les bâtiments qui ont été construits avant cette espèce de, je ne dirais pas une prise de conscience, mais on peut dire, cette lubie de l'isolation thermique, eh bien, cette lubie de l'isolation thermique, bah, elle a été toujours celle des hommes. Donc les bâtiments ne sont pas des passoires. D'abord, le mot passoire, ça supposerait que l'eau passe, que l'air traverse, et les bâtiments sont par définition des bâtiments qui sont fermés, étanches. Les bâtiments sont hors d'air, hors d'eau. Donc l'étanchéité est la première des conditions de tous les constructeurs. Donc tout ça, le mot passoire est totalement inadapté, inutilement anxiogène, parce que les gens ne vivent pas dans des passoires. Alors il est vrai que les bâtiments anciens n'ont pas des isolations parce que ils ont à la place de l'inertie. Dans nos contrées, on ne construit pas en bois, on ne construit pas léger, on construit en briques, on construit en pierre, on construit même aussi en torchis, plus rarement parce que ça a été remplacé par la pierre et la brique, et on construit également en béton, qui est une pierre liquide, qui n'est pas, qui a un peu les mêmes propriétés que la pierre. Donc, on a des bâtiments qui ont de l'inertie. L'inertie, c'est la masse, c'est le poids qui fait que les différences de température ne sont pas sensibles dans un sens, dans un autre, ça veut dire du froid vers le chaud et du chaud vers le froid. Alors il est vrai que les progrès des matériaux, et il faut le dire aussi, des matériaux qui sont liés à la pétrochimie, parce que le polystyrène, les matières plastiques des nouvelles fenêtres, tout cela, ce sont des dérivés de pétrole. Donc c'est assez curieux, c'est que les gens qui sont à la fois contre le pétrole, et à la fois ils sont pour l'isolation et surtout la surisolation thermique telle que, elle est aujourd'hui programmée, réglementée. Et j'en ai déjà parlé, je vais revenir sur ce sujet, elle me paraît extrêmement excessive. Alors, les conséquences, on les a déjà avec les dernières lois. C'est que des propriétaires qui ne sont pas très riches n'arrivent pas à louer, puisqu'on interdit maintenant la location si on n'est pas aux nouvelles normes, et sont obligés de vendre, et certains et ne peuvent pas louer. Par exemple, j'ai vu aussi que dans les stations de ski ou des logements qui sont loués pendant les fêtes, par exemple, sur une période assez courte, qui peuvent faire des revenus à des personnes qui ne sont pas forcément des grands groupes riches, parce que il faut rappeler aussi que contrairement à certaines idées reçues, le patrimoine locatif n'est pas la propriété des groupes américains de placement d'argent de retraite, mais qu'il s'agit souvent de personnes qui ne sont pas des fonctionnaires, qui n'ont pas de retraite, ou même des fonctionnaires aussi, mais qui ont un complément de retraite avec leur épargne et leurs économies qu'ils ont mis dans un logement qui leur assure une rentabilité. Alors tout ça est assez disruptif et complexe, et on a effectivement, j'entendais à la radio, ce qui est extrêmement choquant, des bonnes affaires que proposées par les agents immobiliers, parce qu'il y a des appartements que les propriétaires ne peuvent pas isoler parce qu'ils n'ont pas l'argent et qu'ils vont vendre à la casse et qu'il y a des bonnes affaires à faire. Donc tout ça est assez inquiétant, il faut le dire. Et surtout, la question c'est quelle est la conséquence, est-ce que c'est vraiment pour la bonne cause? Alors évidemment, tout ça est bien excessif parce que on a fait dans les réglementations, évidemment, un mixte entre les isolations de base qui vont être par exemple celles de la toiture et du plafond, et puis on va avoir les ponts thermiques. Alors, ponts thermiques, vous savez ce que c'est effectivement là, dans un angle, dans l'adjonction de deux matériaux, il y a un endroit où effectivement il y a le froid qui peut passer, ou la chaleur. En tout cas, il n'y a pas une continuité de l'enveloppe. Alors quand je vois ces publicités de certains groupes qui s'appellent Verlaine, qui n'a rien à voir avec le poète et qui fait une publicité où on voit un magnifique mur de briques anciennes qui est revêtu par un matériau abominable à l'extérieur, on peut aussi se poser la question de à la fois la durée de vie de ce matériau fragile sur l'extérieur, et puis de la pertinence de cette isolation extérieure sur un mur qui déjà, il s'agit d'un mur de briques anciennes, fait déjà une épaisseur considérable, et que, bon, soit par une isolation intérieure, et peut-être même d'ailleurs globalement pas d'isolation du tout. Alors, il faut aussi parler de quelques principes simples et qui sont oubliés, c'est que la chaleur monte, c'est-à-dire que quand vous avez du chauffage, eh bien, vous le savez tous, la chaleur monte, et que si effectivement la partie supérieure, le plafond, la toiture, n'est pas isolée, bah, la chaleur, elle part dans les combles, et vous avez un courant d'air permanent à l'intérieur où il faut chauffer pour que la chaleur soit en permanence renouvelée. Alors, si on bloque en partie haute la chaleur, eh bien, vous avez la chaleur qui va redescendre, et vous n'allez pas avoir une strate froide et une strate chaude dans la partie dans laquelle d'abord, qui va être dans la partie haute du plafond, mais on va avoir une convection, et on va avoir une répartition de la chaleur. Donc, l'essentiel est est effectivement de bloquer la chaleur en partie haute, puisque la chaleur monte encore une fois. Alors, les surfaces latérales, ben, les surfaces latérales sur les maisons modernes aujourd'hui, on peut dire que pratiquement toutes les maisons qui ont des grandes baies vitrées ont des doubles vitrages. Donc, il peut y avoir des problèmes de joints, parce que les joints, avec le temps, s'use, mais aujourd'hui, quand je vois les articles, et notamment un article sur le point où les journalistes, évidemment, ils suivent le vent de l'histoire, on vous parle de chantiers complexes que les gens ne peuvent pas assumer parce que les blancs ne prêtent pas. Donc, on mélange à la fois cette isolation de toiture qui, souvent, si c'est un comble, elle peut être réalisée par les propriétaires eux-mêmes. Et en plus de ça coûte très bon marché, puisqu'il s'agit d'une isolation dont l'épaisseur peut être très importante, et c'est elle qui est la plus efficace. Donc, celle-là, elle est très bon marché, mais elle n'intéresse personne parce que c'est pas des entreprises. Donc, et puis, justement, elle est bon marché. Donc, il faut effectivement des choses complexes. Alors, on veut changer de fenêtre. Alors, évidemment, on ne dissocie pas les isolations les unes des autres, et on ne sait jamais quel est le bénéfice qui est dû aux différents types d'interventions. Alors là, je peux vous dire que les interventions sur les fenêtres, la plupart du temps, alors évidemment, s'il y a des joints sur les fenêtres anciennes, alors les fenêtres anciennes, dans un bâtiment, d'abord, elles ne sont jamais très très grandes, et comme les bâtiments ont une inertie, comme je vous disais, des murs importants, le froid peut être circoncis avec des moyens tout à fait simples et des joints que l'on peut se poser soi-même. Alors, quand vous voyez qu'on va changer les fenêtres dans une maison ancienne pour des tarifs qui vont être de 20 à 30 à 40 000 euros, on est sur des choses qui me paraissent assez invraisemblables et qui ne seront jamais, jamais amorties. Donc les bénéfices sont faibles. Si ce qui est annoncé souvent ne marche jamais, parce qu'on vous dit vous allez faire des économies mensuelles extrêmes, et quand les gens changent les fenêtres, ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais ils ne voient pas leur facture baisser. Et il ne voit pas du tout la différence. Alors je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais simplement, disons que le bénéfice n'est pas suffisant. Mais la réglementation l'impose, et elle impose les pans thermiques, et toute une on est paradoxalement, on nous annonce le réchauffement climatique, et puis on a contre le froid, des choses qui me paraissent absolument absurdes. De plus, les modes de vie sont différents. On peut avoir, je ne sais pas, un couple qui vit, par exemple, dans une grande maison. Ils vont se chauffer avec une cheminée. Aujourd'hui, il y a des inserts, il y a des poêles de bon marché et très efficaces, avec du bois accessible, surtout que on n'est pas la grande partie de la population n'est pas urbaine, et donc on peut avoir accès à du bois bon marché, à des moyens, donc, comme je vous disais, de chauffage moderne absolument performant. Et on peut dire que, par exemple, les chambres ne sont pas chauffées, ou du moins on les chauffe juste avant d'y aller. On peut avoir des températures beaucoup plus faibles. Donc les réglementations, évidemment, ne tiennent pas compte des modes de vie de chacun, et ça me paraît d'abord une intrusion dans la liberté des gens. Et puis, il n'y a pas que les logements dans les bâtiments. Donc, de penser que la jeunesse va s'accrocher à des fils de tennis, va interrompre la circulation au nom de la rénovation thermique des bâtiments, attendu qu'ils ne savent pas le béaba de ce que c'est que l'isolation thermique dans le de l'isolation tout court. D'abord, je pense qu'ils ne savent pas ce que la conductibilité, enfin toutes ces données physiques échappent certainement à nos manifestants, Et ils se battent, en fait, je pense, pour les groupes comme Saint-Gobain ou ces groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'entreprises plus ou moins honnêtes qui vont démarcher en permanence les gens, les personnes âgées, les retraités, en leur faisant miroiter des bénéfices extraordinaires qu'ils ne verront jamais et en leur ponctionnant leurs économies qu'ils pourraient utiliser pour de bien meilleures façons. Voilà, tout ça est assez triste. Et bon, je finis sur cette note pessimiste, j'en suis désolé. À la semaine prochaine!